parfois. Il faut rester avec ça, ce qu'on a fait, ce qu'on n'aura pas, ce qu'on a décidé. Mais au moins, on continue. Il faudrait tout lui expliquer à monsieur. Il la regarde comme si elle ne pouvait pas lui refuser ce qu'il lui réclame. Elle ne lui a rien raconté, mais il a tout deviné. Il lui sourit, un sourire horrible de sa bouche sans mâchoire. Il lui sourit pour l'encourager, la charmer. Allez, un de plus, un de moins. Quand on a déjà tué, est-ce que ça fait une différence? Elle sent qu'elle pourrait vomir. Il ne le voit donc pas, ce ravage à l'intérieur d'elle, cette destruction, tout ce chaos. Sa blessure à elle est invisible. Elle a parfois si mal, malgré le temps qui passe, qui apaise. Tu parles. Lui ne se sert plus de ses mains perdues. Mais comment utiliserait-elle son âme déjà tant blessée si elle devait porter, en plus du reste, du souvenir du reste, son poids à lui, sa mort à lui, sur sa conscience, à elle? Elle voudrait lui expliquer. Faire passer un enfant qui n'est pas encore né, ce n'est pas voir un corps cesser de respirer, ce n'est pas sentir sa masse s'affaisser entre ses bras. Ce n'est pas observer l'âme quitter le regard. Faire passer un enfant qu'on ne désire pas, qu'on n'assumera pas, c'est éviter un autre drame, à retardement. C'est un geste de conservation. C'est le coup de talon qui vous fait remonter à la surface quand on se noie. On en sort choqué, exténué, meurtri, mais on en sort vivant. C'est là le but ultime. Elle sait déjà que si elle accède à sa demande folle, elle mènera peut-être monsieur vers la paix qu'il réclame, mais c'est la garantie de voir s'ouvrir devant elle un enfer infini. Elle ne veut pas. Elle refuse. Elle le reconnaît sans honte, elle a peur. Non pas de le faire, de devoir vivre avec. Elle ne trouve pas les mots. Refléter l'abîme de culpabilité que creuserait devant elle ce geste fou. Si elle sauve monsieur de son quotidien inutile, lui condamne une femme à un nouveau néant. L'entendrait-il si elle le lui disait? Sûrement pas. Il appelle la mort de tout son être, il se moque du reste, sa douleur à lui emporte tout. Une idée surgit, dictée par le devoir. Elle imagine madame déconfite, détruite, sans voix. Elle se lève. Ses mots sonneront sûrement creux dans la grande pièce. Elle les articule quand même. Que dira madame, à son retour? Elle qui a confié monsieur à la bonne? Si la bonne en a profité pour le supprimer, ces choses-là ne se font pas. Il y a cru. Un court instant, il s'est dit que ce serait possible, que cette petite aurait le cran nécessaire. Il a lu quelque chose d'inédit dans son regard, une détermination, une dureté, qui lui a confirmé qu'elle comprenait, pas seulement les mots. Il a senti que dans son corps, la bonne a déjà expérimenté la mort. Qu'elle la connaît presque aussi intimement que lui. Quelque chose de particulier dans son souffle, dans le rythme de son cœur, dans le battement de ses cils. Ces vivants-là, ceux qui l'ont déjà côtoyé, reconnaissent toujours entre eux cet effroi fasciné. Il a raison sur le fond. Mais cette fascination commune ne procure pas chez l'un et l'autre les mêmes effets. Ils sont comme les deux faces d'une même pièce, dos à dos, unis par leur expérience de la mort qui attire ou qui révulse, malgré eux. Quand la silhouette frêle d'Alexandrine a surgi, brusquement évoquée, jetée dans la mêlée par cette jeune domestique futée, Blaise a marqué un temps d'arrêt. Sa femme était loin, en dehors de tout cela. Surtout, il s'était réfugié depuis longtemps derrière l'idée qu'il agissait pour elle, pour qu'elle puisse à nouveau vivre normalement. Il se trouvait chevaleresque, il se sacrifiait, c'était beau, c'était noble. On continuerait à en parler longtemps, avec une certaine admiration. Alexandrine pleurerait sûrement au début. Il l'imaginait vite soulagée, ça l'arrangeait de le croire. Dans ses prières, elle le remercierait d'avoir fait le bon choix. Ce serait la libération après toutes ces années d'emprisonnement mutuel, le soulagement. Mais